Bien, gloire à Dieu et bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur soit toujours glorifié au milieu de nous. J'ai de la joie à avoir revu notre frère, le pasteur Gérard Gault et son épouse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, quoique j'avais toujours des nouvelles. Et puis une joie de voir les jeunes frères pleins de foi, de dynamisme et de zèle pour le Seigneur. Puis de revoir les aînés aussi, n'est-ce pas, monsieur Ollé? Ça fait partie de ceux qui ont été des exemples dans le domaine de la foi et qui ont persévéré jusqu'au bout. Car ce qui est important, ce n'est pas le départ, le commencement d'une chose, c'est sa fin, dira l'Écriture. Alors j'aimerais lire avec vous dans le livre des Nombres, au chapitre 14e, il aurait fallu faire des plus longues lectures, mais je vais simplement les signaler. Le livre des Nombres, au chapitre 14. Alors, il aurait été souhaitable de lire Nombres, chapitre 13, versets 30 à 33, puis 14, puis également le chapitre 32, et enfin Josué, 14 et 15. Vous allez voir pourquoi je vous dis ceci. Donc, Nombre 14, 24. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. » J'aimerais parler, pendant cette matinée, de Caleb. Caleb était en même temps que Josué, un des espions envoyés par Moïse pour se rendre compte de ce qu'était le pays de Canaan. En tout, ils étaient 12, et quand les 12 sont revenus, 10 ont dit, c'est vrai, c'est un beau pays, mais 10 ont découragé le peuple d'Israël, et suite à ce découragement qui s'est étendu sur tout Israël, vous savez qu'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert. Sur les 12, donc 2 étaient contre ce qui décourageait Josué et Caleb. Et nous retrouvons Caleb. Ce Caleb n'est jamais devenu Josué. C'est pas Caleb qui a fait rentrer, je dirais, à la tête du peuple, le peuple d'Israël en Canaan. Mais néanmoins, Caleb fait partie de ces gens que Dieu a particulièrement bénis, à qui Dieu a fait des promesses, et Dieu les a tenues, ses promesses, car il tient toujours ses promesses. Et nous voyons que Caleb n'est peut-être pas ce qu'on appellerait aujourd'hui, bien que ce terme, je ne l'aime pas. Je vous le dis tout de suite, le terme leader. On a un mot comme ça, dire un leader, non. Il n'a pas été un Josué, mais néanmoins, c'était quelqu'un qui a servi Dieu et qui a été en bénédiction non seulement pour le peuple de Dieu, mais pour d'autres. Or, vous savez ce que ça veut dire, Caleb ? Oui ? Chien. Si je vous disais cela, vous allez me dire, « Monsieur Galifo, vous manquez de respect. » Bien non, ce n'est pas un manque de respect. Et je me souviens d'un personnage que nous avons connu dans une certaine région, dans une certaine église avec ma femme. C'était un frère qui, dans le message, prêchait certainement même mieux que moi. Dans sa fidélité, dans tous les domaines de sa vie, c'était un exemple. Et un jour, je lui ai posé la question, mais vous n'avez jamais pensé à entrer dans le ministère? Et voilà ce qu'il m'a dit. J'ai prié, et Dieu m'a répondu, et il m'a dit, tu seras chien de berger. Chien de berger. Je ne connais pas de troupeau sans berger, et de berger sans chien. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire, c'est pas péjoratif. Il y en a qui sont appelés à diriger des choses. Moi, je n'ai pas ces talents. Je ne pourrais pas être un directeur, je n'ai pas ça en moi. Je préfère aller sur le terrain, moi, parler comme ça. Chacun reçu de Dieu quelque chose de différent. Mais Dieu soit béni pour tous ceux qui reçoivent de sa part. Caleb n'était pas un Josué. Mais Caleb était indispensable au travail de Dieu, à la conquête de Canaan, et je dirais même, il était indispensable à Josué. Alors, j'aimerais voir avec vous ce que Dieu déclare. Quand Dieu parle à Moïse et à Josué de Caleb, il dira, il a pleinement suivi ma voie. Quand Moïse parle et fait allusion à Caleb, il dit, il a pleinement suivi la voie de Dieu. Vous imaginez un petit peu ce qu'il dit de lui ? Et quand Josué parle de lui-même ou Caleb de lui-même, il dit, j'ai pleinement suivi la voie de Dieu. Caleb a une foi de qualité. Vous retiendrez bien cela. Il a une foi de qualité. Les années pourront passer entre le moment où cela arrive et le moment où il demandera quelque chose à Josué, il y aura 45 années qui vont passer. Pendant ces 45 ans, Caleb n'a pas été modifié dans sa vision, dans sa foi et dans ses réactions. Moi, je bénis le Seigneur quand j'ai connu des personnes, elles étaient jeunes, elles ont vieilli, des gens qui ont toujours la même foi. Que ce soit des ministres de l'Évangile, que ce soit des chrétiens dans des églises, ils ont gardé la même foi victorieuse. Moi, ça me réjouit. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Nous allons voir comment, bien sûr. Alors, je disais, Caleb a une foi de qualité. Pourquoi ? Eh bien, il est déterminé dans ce qu'il va faire. Il est déterminé dans ses pensées parce qu'il savait deux choses. La première, c'était que c'était la volonté de Dieu que tous les païens soient chassés de Canaan. C'est ce que Dieu avait dit, ça il le savait, c'était clair. Et nous aussi, nous devrions savoir une chose. Dieu désire que nous nous souvenions qu'il est venu vaincre Satan et qu'il veut qu'il soit chassé des gens. Et ça nous importe, à nous. La deuxième chose qu'il savait, c'est que Dieu avait promis la victoire. Et nous le verrons. Et Dieu nous a dit que nous sommes plus que... promis la victoire. Et à cause de ces deux choses, il était déterminé à aller coûte que coûte, de l'avant. Alors, j'aimerais parler quelque temps de la foi de Caleb. Il avance quand les autres reculent. C'est pas évident, ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner. Il y en a 10 qui sont contre lui, contre ce qu'il va dire. Il y en a tellement qui se faufilent, hein, ils sont comme les anguilles, ils essaient de ménager la chèvre, le chou, etc. Non, ou d'avoir des compromis. Pas du tout, lui, il n'en a pas. Il est ferme dans sa foi. Et non seulement il en a 10 qui sont contre lui, mais après, c'est le peuple qui est contre lui. Parce qu'on parle même de lapider Moïse, et eux également, parce qu'ils sont du côté de Moïse, puisque Moïse est du côté de Dieu. Eh bien, quand tous les autres reculent, lui, il avance. Quelle foi ! Et cette foi, elle ne provient pas de ce que dira l'un ou l'autre, elle provient de notre, je dirais, contact avec Dieu. Contact, pour nous, de la parole de Dieu. Trop souvent, nous dépendons de ce que les uns et les autres disent. Notre foi, elle vient de là, de là. Je me souviens du témoignage d'un jeune homme qui allait voir, je crois que c'est Smith Wigglesworth, si j'ai bonne mémoire, et il disait à la fin d'une réunion, « Est-ce que vous avez une parole pour moi ?» Ah, les gens, ils aiment bien ça, hein. Quand on va à l'étranger, « Vous voulez nous mettre un verset dans la Bible ?» Ça vous est arrivé, monsieur, bien des fois. Et vous savez ce qu'a répondu Smith Wigglesworth ? Il a dit, « Une parole pour toi !» Il a dit, « Montre-moi ta Bible !» Alors, vous savez, il était assez rude, et le jeune homme lui a donné sa Bible, et il a dit, voilà, il l'a mise par terre, je ne veux pas le faire parce que s'il y a des gens superstitieux, mais il est monté sur la Bible, il lui a dit, monte sur la Bible. Il lui a dit, j'ai pas une parole pour toi, tu as toute la parole pour toi. Et j'ai aimé cela. Est-ce que nous puisons notre foi dans toute la parole de Dieu ? C'est important. Je pense à Caleb, non seulement il avance quand les autres reculent, mais il persévère quand les autres tombent. Pendant 38 ans, il va errer comme les autres dans le désert. Il n'y est pour rien, lui. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y est pour rien. Et pendant 38 ans, bien, il y a des gens qui vont tomber, qui vont mourir, etc. Et puis les années, elles passent. Et lui, comme tous les autres, il vieillit. Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Pendant 38 ans, sa foi demeure intacte et ferme. Il sait, parce que Dieu le lui a dit en plus, que non seulement les Cananéens seront chassés, qu'ils auront la victoire, mais Dieu lui a dit, toi, tu rentreras dans le pays promis. Il le sait. Et même si tout le monde tombe, lui, il persévère. Et la foi, c'est cela. La foi, c'est persévérer. Et il arrive que les gens commencent par la foi, mais terminent par le doute. Et bien sûr, il n'y a pas de résultat. La foi, elle va jusqu'au bout, même si tous les autres sont en désaccord avec nous. Troisième point que j'aimerais souligner de la foi de Caleb, il a gardé la vision du pays promis. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas oublier. Vous imaginez deux hommes pour porter une grappe de raisin. Je ne suis pas né à Marseille. Hein. Mais c'est pourtant ce que dit l'Écriture. Deux hommes pour porter une seule grappe. Vous imaginez une vendange comme ça, qu'est-ce que ça devait donner? Eh oui, il a gardé, il a vu tous les fruits qu'il y avait. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. D'ailleurs, vous savez combien les gens sont attirés par ce qui est le manger? C'est pour ça que c'est si dur de jeûner. Et c'est comme ça qu'il a voulu amener le peuple d'Israël à rentrer en Canaan. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a de l'abondance. Ils ont vu tout ça. Et lui, il l'a vu. Il a vu ce pays. Il a vu ce beau pays après avoir été esclave en Égypte. Et il veut y rentrer. Il a gardé cette vision. Est-ce que nous pouvons garder la vision non seulement de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a été, de ce que Jésus nous a montré dans l'Évangile, garder cette même vision, elle ne doit pas changer, mais également garder la vision du pays céleste dans lequel nous rentrerons. Est-ce que nous pouvons garder la vision du ciel? C'est extraordinaire. Ça nous donne de la foi. J'en parlerai tout à l'heure. La foi du ciel. Un autre point qui a permis à Caleb d'être ferme dans la foi, il a vu des choses extraordinaires. Bien sûr, il a vu les plaies d'Égypte, je passe rapidement dessus. Il a assisté à la traversée de la mer Rouge. Je ne sais pas ce que vous en dites. C'est quand même glorieux. C'est grand. C'est digne de notre Dieu. Il a également vécu les miracles dans le désert. La nuée qui se levait, qui se déplaçait, qui s'arrêtait. Le rocher qui donnait de l'eau. La manne. Enfin, il a vécu tout ce que Dieu a fait dans le désert. Il l'a vu tout cela. Je dirais, il a assisté à la traversée du Jourdain, où comme pour la mer Rouge, Dieu a séparé les eaux. Il a assisté à la prise de Jéricho, où les murs se sont enfoncés. Il a vu tout cela. Et ces choses extraordinaires l'ont maintenu dans la foi. Et il faut dire que dans nos vies spirituelles, nous aussi, nous avons des encouragements de la part de Dieu, qu'ils nous soient personnels ou qu'ils soient dans toute l'Église, mais comme souvent des prédicateurs le disent, Dieu nous fait des clins d'œil. Et quand je dis clin d'œil, ça veut dire il répond surnaturellement, miraculeusement, il fait encore des prodiges et des miracles. Et ça nous maintient dans la foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est cela le fer de lance du christianisme. Le fer de lance du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Que vous le vouliez ou pas. C'est ce qui fait la différence envers tous ceux qui se prennent pour des messies ou des dieux. Notre Seigneur est vivant. Alléluia. Et parce qu'il est vivant, eh bien il exauce, il répond, il agit, il marche, comme nous l'avons chanté dans un certain chant. Le dernier, si j'ai bonne mémoire, nous n'avons pas à avoir peur. Nous devons rester en paix. Alléluia. Il a vécu tout cela. Et cela ne faisait que le conforter dans sa foi. Tout ce que je vois me montre que je vais rentrer dans le pays promis et que tout ce que Dieu nous a dit va s'accomplir. Nous devons le savoir. Je dirais, un autre point de sa foi, il va jusqu'au bout alors que certains se fatiguent et se lassent. Quand il rentre après la traversée du Jourdain, il y en a certains qui s'arrêtent, eh bien nous nous arrêterons là, nous allons nous contenter de cette partie du pays. Ils sont déjà fatigués. Il faudra quand même qu'ils continuent, pour les hommes de guerre, à suivre leurs frères. Mais lui, il va de l'avant. Non, c'est pas là, moi je veux aller plus loin. Certains s'arrêtent, lui, il continue. Et nous devons savoir que notre foi, elle est persévérante. Elle continue jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est important de le réaliser, même si les autres se lassent, même si certains baissent les bras, nous devons aller jusqu'au bout. Et par la grâce de Dieu, ceux qui peut-être sont fatigués vont revenir. Et ceux qui sont lassés vont être encouragés. Je me souviens d'un grand-père qui s'était donné au Seigneur quand il avait 87 ans. C'est pas rien. C'était un homme qui fumait, comment on appelle ça, c'est les blagues, non? Ce qu'on appelait ça, l'engin en fer là, dans lequel on roulait les cigarettes, etc. Il s'est donné à 87 ans au Seigneur. Il me semble encore le voir, il était grand. Je m'excuse du jeu de mots que je vais faire, il s'appelait Monsieur Charrier. Et alors, quand on demandait aux jeunes de chanter, il chantait avec les jeunes. Il ne fallait pas le charrier. Et il était tellement content de vivre avec le Seigneur. Je me souviens, il enjambait les chaises, il était grand, il enjambait les chaises, il passait par-dessus avec sa jambe, 87 ans. Il avait une foi, cet homme, étonnante. Dieu l'a repris des années plus tard. J'en ai connu un autre qui allait distribuer des prospectus, il avait 86 ans. C'était dans la Haute-Savoie, pas le climat de Toulouse. Mais il y allait. Et quand je lui dis, mais frère, vous êtes âgé maintenant. Enfin, il dit, comment je suis âgé? Moi, le Seigneur m'a sauvé, il m'a renouvelé. Et il y allait, il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas l'arrêter. Moi, je lui dis, ces hommes-là, c'est des hommes de Dieu. C'est des hommes de foi. Et il communiquait ça, parce que quand les jeunes voyaient ce qu'il faisait, qu'avaient-ils envie de faire à leur tour? De l'imiter. Et nous y reviendrons dans ce domaine-là. Je dirais, un sixième point qu'il avait, il était animé du désir de posséder davantage. Et ça, c'est un domaine qui nous interpelle. Vous avez remarqué combien nous nous contentons facilement de ce que nous avons eu et de ce que nous avons? C'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai presque envie de vous remuer, mais je ne le ferai pas. C'est pourtant la réalité. On a notre petite vie chrétienne, notre petite vie de piété. Moi, je suis à telle fonction, moi, je suis à tel ordre, moi, je suis à ceci, moi, je sais. Et puis alors, il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu. Eh bien, lui, il ne se contente pas de cela. Il y a une montagne où il y a des géants. Personne n'ose aller les affronter. Il va trouver Josué et lui dit, écoute, tu sais ce que Dieu t'a dit, comme il m'a dit et comme il a dit à Moïse. Oui. Eh bien, moi, je la veux, cette montagne. Donne-la-moi. Elle n'était pas prévue au programme, mais je la veux. Il me semble voir le dialogue de Josué et Caleb, quand ils ont dû se revoir, hein. Ils ont dû se prendre, se taper dans l'épaule. Ah, toi, t'as pas changé. Hein? Eh bien, je te la donne, cette montagne. Vas-y, prends-la. Et puis, il y est allé. Et qui c'est qui a gagné? Les géants, bien sûr. Non, c'est Caleb. Il en voulait davantage. Est-ce que nous en voulons davantage de la part de Dieu? Je pourrais dire davantage d'âme, ça c'est vrai. Donne. Mais davantage d'expérience. Non pas pour dire j'ai vécu des expériences, mais pour que Dieu soit glorifié. Davantage de prodiges et de miracles. Davantage de soif de Dieu. Davantage de voir la gloire de Dieu. Est-ce que j'en veux davantage? Ou est-ce que je me contente de la vie que j'ai? Vous savez, j'avais demandé en son temps à des frères aînés, tels M. Roux, quand ils ont pris leur retraite, à M. Burki, qui étaient quand même des hommes de Dieu, à M. Le Filat, et à d'autres, je ne veux pas tous les mentionner, je leur avais demandé, bien sûr, je sais ce que Dieu a fait avec leur ministère, hein, que Dieu soit béni et qu'il m'aide à faire, je dirais, le millième de ce qu'ils ont fait. Mais j'aurais demandé, est-ce que vous êtes satisfaits? Unanimement, ils m'ont dit non. Et ils m'ont dit, j'aurais posé la question, si c'était à refaire, offririez de la même manière. Et ils m'ont dit non plus, mais ils m'ont pas dit comment. Mais je voulais dire par là, pourtant Dieu les a bénis ces hommes-là. Eh bien, ils n'étaient pas satisfaits. Est-ce que nous avons le droit d'être satisfaits? Caleb ne l'était pas. Il en voulait plus. Ça, c'est un critère de la foi. Un septième critère de la foi. Parce que Caleb était animé d'un tel état d'esprit, il l'a communiqué au sien. Et la foi, c'est quelque chose qui se communique. Sa fille, elle obtient un héritage. C'est déjà pas mal, parce qu'à l'époque, c'était les gars qui avaient un héritage. Mais elle en tient. Et puis elle va trouver son père, fait, ça ne me suffit pas ce que tu m'as donné. Hein? Tu m'as donné des terres au nord, j'en veux au sud ou l'inverse, m'importe. Parce qu'elle savait qu'il y avait des sources. Elle est animée du même esprit que son père. Je veux autre chose. Ça se communique. Et la foi que décrit Paul à Timothée, c'était la foi qui était dans son aïeul et qu'il a retrouvée dans sa mère et qu'il veut retrouver en lui. La foi, ça se partage, ça se communique, je dirais, ça se transmet. Regardez. Le premier juge en Israël, c'était qui? Othniel. Et qui était Othniel? C'était le gendre de Caleb. C'était celui qui s'est marié avec Aksa. Celle qui a dit à son père, hey, « Eh, ça ne me suffit pas, il faut que tu m'en donnes d'autres. » Eh bien, c'est son mari. Eh bien, lui aussi, il a été le premier juge, parce qu'ils avaient peur. Les étrangers étaient venus, ils avaient remporté des victoires, ils avaient repris des terres. Othniel ne l'acceptait pas, cela. Où est le Dieu de mon beau-père? Mais il est toujours là, le Dieu de mon beau-père. Et le Dieu de Caleb, il est toujours là aussi, au milieu de nous. Et il a remporté la victoire, il a repris le terrain, et il a été le juge pendant des années sur Israël. La foi, c'est quelque chose qui se communique. Caleb savait de quoi il parlait. Caleb avait une bonne attitude. Caleb affirme ce qu'il croit, ce qu'il sait. C'est ça la foi. Est-ce que nous avons la foi? La Bible nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je pense à ce que le Seigneur Jésus disait dans l'évangile de Luc, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il? Alors, j'ai cherché sur plusieurs versions différentes, traductions. Certaines disent « Trouverai-je la foi ?» et d'autres disent « Trouverai-je de la foi ?» Et pour moi, il y a une nuance à laquelle je pensais. Et puis, ce matin, parlant à un jeune frère dans le ministère, il m'a donné sa pensée et je l'apprécie. Avoir de la foi, un petit peu quelque chose. Tout simplement. Vous voyez, il descend bas. Est-ce qu'il y aura un petit peu quelque chose de la foi dans les gens quand je reviendrai dans l'église? Ou est-ce qu'il y aura la foi comme celle de Caleb? Il y a au milieu de nous un couple qui avait partagé cette expérience de ce qui est arrivé il y a à peu près 4 ans à un couple dans le sud-ouest, un homme qui avait été piqué par des frelons asiatiques. Voilà, vous en souvenez, 56 piqûres, etc. Cet homme est resté mort 4 heures, pendant laquelle il a une vision. Et Jésus-Christ lui a dit, tu vas revenir et tu vas dire, je ne reprends pas les mots, peut-être mot pour mot, mais le Seigneur lui a dit, tu vas dire autour de toi, mon Église, qu'elle se prépare, je reviens en hâte. C'est bien cela, je reviens en hâte. Pourquoi le dire à l'Église? Parce qu'il disait, l'Église ne m'attend pas. Cet homme est allé en Israël il y a quelque temps de cela, et là-bas, or je ne dis pas les lieux, peu importe, mais il a rencontré 2 personnes qui ont vécu la même expérience, qui sont mortes, et les 2 personnes, pareillement, sont restées mortes, l'une 4 heures et l'autre 5 heures, auxquelles le Seigneur a dit, je vous renvoie sur la terre et dites à mon Église que je reviens bientôt et qu'elle n'est pas prête. Et il y en a un qui a osé dire, mais pourquoi elle n'est pas prête? Alors que l'Église se rassemble, ne serait-ce que tous les dimanches, pour chanter, pour louer, pour écouter, pour prier, pour adorer. Et le Seigneur a dit ceci, elle est préoccupée par les choses de la vie sur la terre, mais ne désire pas mon retour, elle ne m'attend pas. Est-ce que nous voulons le retour du Seigneur? Est-ce que nous y aspirons? Non pas parce que nous sommes découragés, mais est-ce que nous y aspirons? Seigneur, reviens, l'Esprit et l'Épouse disent, Amen, viens Seigneur Jésus. Est-ce que nous aspirons au retour de Jésus? Est-ce que nous souhaitons ce grand avènement? Est-ce que nous voulons partir avec lui? Est-ce que ça fait partie des choses primordial dans notre vie? Ah non, il est évident que ça pourrait déranger bien des plans et des planifications et des projets. Ah si le Seigneur revient, moi j'avais projeté de faire ceci ou d'aller à tel endroit. Qu'est-ce qui prime le plus? Si nous disons réellement que nous sommes l'épouse de Jésus, je ne sais pas s'il y a des fiancés au milieu de nous qui préparent un mariage, hein, mais je sais suffisamment ce qu'il en est. Quand on est fiancé, si vous demandez au fiancé, vous ne voulez pas retarder la date de votre mariage? C'est ce que tu as fait, Jérémie. Non. Je n'ose pas demander à Michael. Non plus. Vous voyez, c'est drôle, ils sont tous unanimes. Là, ils ne se concertent pas, mais enfin, c'est la même décision pour les uns et les autres. Si on demande à la jeune fille, est-ce que tu ne veux pas retarder la date de mariage? Ah non, oui, mais ce jour-là, nous avons... Non. Même si vous n'y êtes pas, ben, il y aura quelqu'un d'autre, mais moi, je me marie tel jour. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Vous êtes d'accord? Alors comment, nous, épouses de Jésus-Christ, nous pourrions dire au Seigneur, non, ne reviens pas tout de suite. Tu as le temps. Je veux retarder la date des noces de l'agneau. Vous allez me dire, vous n'êtes pas sérieux, monsieur Galifot, mais c'est ce que le Seigneur voit. Attends le retour du Seigneur. Est-ce que nous avons la foi? En fin de compte, nos prières, c'est simplement une foi qui réclame ce qu'il y a de merveilleux, de prodigieux, de glorieux que Dieu a préparé d'avance. Et quand nous prions avec foi, bien Seigneur, ce que tu as promis, c'est ce que nous allons voir s'accomplir, comme Caleb le pensait. Tu as promis le pays de Canaan, bien Seigneur, tu vas le donner. Seigneur, tu nous as promis la victoire, bien tu auras la victoire. C'est ça la foi. Et nos prières doivent être empreintes de cette foi. Jésus disait à Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le blé. Mais moi, disait le Seigneur, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, ou d'autres traductions disent, ou ne disparaisse point. Il peut y avoir des défaillances jusqu'à disparaître. Comme disait l'apôtre Paul, certains ont perdu la foi. Que le Seigneur nous maintienne dans cette foi victorieuse jusqu'au bout des conquérants. Je fais référence à ce que je connais. J'ai quand même connu assez bien depuis tout jeune, tout enfant, M. Cizeron, Aimé Cizeron, que plusieurs ont connu au milieu de nous. C'était un homme de foi. J'ai connu, tandis qu'il était encore cuisinier à Embrun, je l'ai connu quand il était pasteur en France, et je l'ai connu quand il était à La Réunion, jusqu'à une année avant que le Seigneur le ramène. J'ai vu cet homme, c'est un homme de foi. Je me souviens, il avait 87 ans, 88 ans, il me conduisait dans sa voiture, et c'est lui qui conduisait, hein. Il me conduisait dans sa voiture à l'île de La Réunion pour aller dans des lieux de réunion et de culte. Quel homme! Et quand on était à son contact, on avait envie de parler du Seigneur. On avait envie de parler des choses de Dieu. On était émerveillés de ce que cet homme avait, la foi et comme foi. Ce que le Seigneur demande, tous ne seront pas des Josué ou des Moïse, mais tous, nous pouvons être comme Caleb, des hommes de foi. Nous ne serons peut-être pas tous appelés à être des bergers, c'est-à-dire diriger une église. Je sais que le grand berger, le bon berger, le divin berger, c'est Jésus. Mais néanmoins, les pasteurs sont des bergers. Tout le monde n'est pas appelé à être un berger. Mais n'oubliez pas, nous pouvons tous être des chiens de berger. Que Dieu soit béni. Et je dis bien une fois de plus, ce n'est pas péjoratif, c'est tellement indispensable. D'ailleurs, c'est parfois le chien de berger qui fait plus de travail que le berger lui-même. Hein. C'est comme cela. Eh bien, que Dieu puisse trouver en nous des hommes, des femmes de foi qui parleront, qui témoigneront, et qui amèneront les gens. Ils seront déjà, je dirais, à moitié convertis pour ne pas dire plus. Peut-être déjà libérés, guéris. Je me souviens d'une femme que nous avons eue, ma femme s'en souvient, quand elle nous amenait des gens, elle les avait visités, elle avait prié avec eux, et les gens arrivés, ils étaient déjà souvent guéris. Une femme qui avait la foi, et elle est toujours en vie, et de temps en temps, elle nous téléphone. C'est formidable. Des hommes et des femmes de foi. Moi, ça me réjouit. Et ça, c'est le lot de chacun d'entre nous. Nous pouvons tous être des hommes et des femmes de foi. Puiser sur la parole de Dieu et sur le Dieu de sa parole. Ça, c'est important. Je sais, la Bible nous dit que Jésus-Christ a remporté le grand combat. Il est vainqueur. Nous sommes d'accord. Et nous nous sommes animés du même esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs avec lui. C'est l'esprit de Christ qui habite en moi. C'est l'esprit de la parole de Dieu qui est dans mon esprit. Je n'aurai même pas le droit de dire que je ne suis rien, que je ne vaux rien, que je ne peux rien. Je n'ai même pas le droit de le dire. Sinon, j'offense mon Seigneur. Mais ce qui glorifie mon Seigneur, c'est dire, Seigneur, toi tu es vainqueur, je t'appartiens, de moi-même je ne peux rien, comme disait notre frère tout à l'heure. Je ne peux rien, mais avec toi, alléluia, nous ferons des exploits. Avec Dieu, alléluia. L'esprit qui anime Jésus, c'est le même esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus du globe de la terre, c'est le même esprit qui habite dans les temples que nous sommes. Que Dieu soit béni. C'est le même esprit qui nous anime. Alléluia. Oh, que Dieu soit glorifié, qui nous aide, que nous puissions devenir des hommes et des femmes de foi qui entraîneront les autres. Othniel, ça veut dire lion de Dieu. Ou encore, Dieu est fort. Eh bien, la Bible nous dit, nous pouvons avoir de l'assurance comme des jeunes lions. Avec la parole de Dieu. Seigneur, c'est ta parole que je garde. C'est ta parole que je sers. C'est ta parole dont je me nourris. C'est ta parole que je proclame. C'est ta parole dans laquelle je crois. Seigneur, avec ta parole, je peux aller de l'avant. Avec la bonne parole de Dieu. Et vous savez ce que dit l'Écriture ? Parce que tu as gardé ma parole. À l'heure de l'épreuve, de la tentation, de la tribulation, je te garderai. Oh, que Dieu soit béni. Pour ça qu'il est important d'avoir la parole, de lire la parole, d'aimer la parole, de se plonger dans la parole de Dieu. Ne regardez pas ce que vous êtes, ne regardez pas ce que vous sentez, ne regardez pas à ce que vous éprouvez, regardez à ce que dit la parole de Dieu. Je lisais le témoignage d'une personne qui a une grave maladie, peu de temps après sa conversion, et a été amenée dans une autre ville pendant un certain temps, pendant des mois, pour subir des examens, puis toutes sortes de traitements. Et là, elle était en contact avec des chrétiens qui la recevaient quand elle pouvait sortir de l'hôpital, et des gens attachés à la parole de Dieu, et qui l'ont amenée à mettre toute sa confiance dans la parole de Dieu, ne pas écouter les uns et les autres, mais ce que Dieu avait à lui dire. Et pendant ces temps où elle était avec ce couple, elle a cherché Dieu, elle a approfondi sa connaissance dans la parole de Dieu, elle a eu la foi. Les choses semblaient être les mêmes. Et puis, elle est rentrée dans son église. Et alors là, dans son église, elle a rencontré des chrétiens gentils du reste, hein, mais qui lui ont dit, tu sais, des fois, Dieu ne guérit pas toujours, ou des fois, Dieu, etc. Et elle était prête à accepter cela. Et puis, elle a eu des nouveaux examens à repasser. Elle est allée là où elle devait se rendre, et puis à nouveau, elle a été hébergée encore quelques semaines chez ce couple, qui ont dit, n'écoutez pas ce que les gens vous disent, qu'est-ce que Dieu vous a dit dans sa parole ? Dans sa parole. Eh bien, restez à ce que Dieu vous a dit dans sa parole. Et puis, elle est revenue, elle est restée ferme. Et Dieu l'a complètement guérie. J'ai bien dit complètement. Ça fait 35 ans que la guérison, elle dure. Mais la guérison a été acquise dans la foi de la parole. C'est parce que Jérémie m'a dit, ou le frère Olé, ou ce que Guy dit, c'est ce que me dit la parole. C'est vrai, Dieu a des plans parfaits, différents pour les uns et les autres. Moi, je ne sais pas. Mais pour moi, qu'est-ce que Dieu veut me dire ? C'est important. La foi, comme Caleb. Et animé, vous savez ce que veut dire le mot animé ? Facile pour ceux qui ont fait des langues étrangères, du latin. Ça veut dire donner la vie. Et j'aime ce terme. D'ailleurs, je l'aimais tellement que quand nous étions dans les églises, je n'appelais plus les gens qui s'occupaient des enfants des moniteurs, mais je les appelais des animateurs. Pour qu'ils donnent la vie aux enfants. Bien sûr, la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus qui nous la donne, nous êtes d'accord. La vie terrestre, ce n'est pas vous qui l'avez donnée non plus. Mais que vous puissiez donner la vie spirituelle, la foi, la communiquer. C'était un animateur, ce Caleb. Et c'est Dieu qui a employé le terme animé. C'est pas moi. Parce qu'il était animé dans notre esprit. Que nous puissions être animés par le Saint-Esprit. Animés par la parole de Dieu. Animés par les promesses de Dieu. Et que nous puissions transmettre cela à tous ceux qui nous entourent. Nos familles. Les enfants. Si je dirige la chorale, la chorale. Si je dirige une église, que je puisse animer et communiquer cette foi tellement importante. Ah, Seigneur. Ce que je veux dire, ce n'est pas pour glorifier l'homme, parce que c'est arrivé à bien des frères dans la foi, mais lorsque je suis revenu il y a à peu près un mois de cela du Brésil, j'étais dans l'avion. Alors, il faut dire que l'avion est parti déjà avec 3 heures de retard. c'est des choses qui arrivent. Mais avant de partir, donc j'avais le temps de penser à Dieu, etc. J'ai dit, Seigneur, si je peux être utile. Et puis là, il y a donc une hôtesse de l'air qui était là, qui est passée, très gentille, d'ailleurs elles sont toutes très gentilles, que ce soit homme ou femme. Et je l'ai remerciée. Puis à un moment donné, elle m'a regardé. Elle m'a dit, Monsieur, vous avez un regard lumineux, il y a quelque chose. J'ai dit merci, rien dit. Mais j'ai pensé le reste. Et puis, le repas était servi et les lumières se sont éteintes. Il y en avait qui regardaient l'écran qui était devant eux. Puis elle est revenue et on a parlé. Et on a parlé du Seigneur. Et puis, elle est partie parce qu'elle était appelée par ailleurs. Et puis, elle est revenue. 3 fois, 4 fois, elle a fait cela. J'étais assis sur le siège. Elle se mettait à genoux et elle parlait avec moi. Elle m'a dit, oui, c'est ce que disent les Écritures. Ah, parce que vous connaissez les Écritures. C'était formidable. Elle habite Biarritz. Et je n'avais pas l'adresse de l'église de Biarritz. Ah, j'avais oublié l'annuaire des Assemblées de Dieu. C'est pas bien ça pour un prédicateur. Hein. Mais le Seigneur mettra quelqu'un d'autre sur la route. Nous avons parlé du Seigneur. Elle en a parlé aux autres, parce que les autres sont venus me trouver. Et puis, avant d'attirer, elle m'a dit, Monsieur, j'aimerais vous rencontrer à nouveau sur notre voyage. Qui sait, encore pour le Brésil, elle m'a dit, moi je fais les longs trajets. Eh bien, que Dieu nous aide à le servir. Avoir quelque chose qui donnera la vie aux autres, à communiquer. Seigneur, nous aide à faire cela. Vous croyez qu'il peut le faire? Vous savez que les gens attendent qu'on leur parle? Ils attendent? Pas cette année, l'année avant. La veille de mon retour en France, Colette, ma femme, me téléphone. La communication a duré un petit peu, d'autant plus que c'était gratuit, hein, la communication. Alors, ça a duré je ne sais pas combien de temps. Je ne voudrais pas me tromper, peut-être un quart d'heure, à peu près, un quart d'heure. Et puis, je raccroche et le téléphone ressonne. Je dis, c'est pas possible, il a oublié de me dire quelque chose. Mais ce n'était pas cela. C'était quelqu'un qui téléphonait au pasteur et qui lui disait ceci, « Monsieur, ça fait 12 fois que je téléphone à votre numéro, il est occupé. » C'était la 13e fois qu'elle téléphonait, libre. Il dit, voilà, j'ai eu un songe cette nuit. Et dans ce songe, il y avait un prédicateur français, c'était à l'étranger, c'est au Brésil. Il y avait un prédicateur français qui venait me parler de Dieu. Elle dit, j'ai pris l'annuaire. J'ai fait toute la liste des églises qu'il y a. Et il y en a, c'est au Brésil. Donc, pour vous dire qu'il y en a. Elle dit, il n'y a qu'un numéro que je faisais, c'était le vôtre. 12 fois, elle l'a fait avant d'entendre pour la 13e fois la réponse. Elle me dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et le frère lui a dit, bien, justement, nous avons un prédicateur français, il est là et il s'en va demain. Si vous voulez, on vient chez vous aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui l'avait préparé, cette femme ? Elle, son fils, ses 2 filles, c'est pas Dieu qui les avait préparées. Dieu connaît les gens. Et il veut se servir de nous, des simples êtres humains, des simples canaux, pour leur apporter ce message glorieux, ce message de foi qu'ils ont besoin d'entendre. Elle ne voulait pas une autre église, je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Parce que nous avons quelque chose à communiquer. Nous avons la foi. Comme disaient Pierre et Jean, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, alléluia, je te le donne au nom de Jésus-Christ, nous avons la foi, frères et sœurs. Vous avez la foi? Quels sont ceux qui ont la foi au milieu de nous? Oui, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il faudra prêcher sur la foi, hein, Gérard. Quels sont ceux qui ont la foi? N'ayez pas peur de lever votre main. C'est bien, vous avez la foi, alléluia. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dans Romains, vous avez la foi, selon la mesure que Dieu a départie à chacun, peu importe. Mais vous avez la foi. Avec la foi, vous pouvez glorifier le Seigneur. vous êtes animés d'un esprit de victoire, de triomphe. Et nous allons vivre des choses personnelles avec le Seigneur et avec l'Église. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour Caleb et ce qu'il nous apporte. Et les victoires qui ont été les siennes. Et le triomphe. Et le peuple dans lequel il a communiqué cette foi. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous avons la foi. Nous avons foi dans le grand vainqueur de Golgotha, dans celui que la mort n'a pas pu retenir, dans celui que Dieu a ressuscité des morts, dans celui que Dieu a fait asseoir à sa droite, et dans celui qui a toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous avons foi en lui. À Dieu soit toute la gloire. Merci Seigneur. Nous sommes là tellement heureux, Seigneur, de te connaître, de savoir que ce que tu as fait pour nous, tu veux le faire pour les autres. Et ce que tu as fait pour nous, tu veux que nous le communiquions aux autres par la foi en ton nom. Seigneur, merci pour ton Église, parce qu'elle est victorieuse. Merci pour ton Église, parce que tu l'aimes et elle t'aime. Et nous te prions, afin que notre foi puisse nous permettre de te dire, nous t'attendons, viens Seigneur Jésus. Et que nous puissions préparer les autres au retour proche de celui que nous aimons et avec lequel nous voulons vivre. Merci pour ton Église à Sainte-Agne. Merci pour les âmes que tu vas sauver. Merci pour les âmes que tu as déjà préparées. Merci pour les victoires que tu as programmées. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Amen.